Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 23, le tribunal. Un événement important vint changer brutalement la face des choses. L'affaire du meurtre du docteur fut appelée devant le tribunal. Il ne fut bientôt plus question que de cela dans tout le village. Pour Tom, cela devint une obsession. Chaque fois qu'on en parlait devant lui, il frissonnait. Il s'imaginait que les remarques soi-disant fortuites qu'on formulait en sa présence étaient autant de pièges qu'on lui tendait. Encore qu'il ne vit pas très bien comment on pouvait soupçonner qu'il fût au courant de quoi que ce soit. Toujours est-il que tous ces bavardages lui mettaient les nerfs à fleur de peau. Il avait à tout propos des sueurs froides. N'y tenant plus, il finit par emmener Huck dans un endroit isolé pour avoir un entretien avec lui. Cela lui ferait du bien de pouvoir parler, de partager avec un autre le fardeau de sa détresse. Il tenait, en outre, à s'assurer que Huck était bien resté fidèle à son serment. « Huck, tu n'as rien dit à personne. »«
À propos de quoi ?»«
Tu sais ce que je veux dire. »« Mais oui, bien sûr que non, je n'ai rien dit. »« Pas un mot. »«
Rien de rien. »«
Pourquoi me demandes-tu ça ?»«
Je ne sais pas. J'avais peur. »
Réfléchis, Tom, si toi ou moi nous parlions, nous n'en aurions pas pour 2 jours à vivre, tu le sais bien.
Tom respira. Un silence, puis «
Huck, » demanda-t-il, « est-ce qu'il pourrait arriver qu'on te force à parler ?»«
Me forcer ? Si j'avais envie de me faire jeter à l'eau par Joe l'Indien, je ne dis pas. Autrement, on peut toujours essayer. »
Bon, du moment que nous ne desserrons pas les dents, nous sommes tranquilles, mais si nous jurions encore une fois de nous taire, ça serait plus sûr.
Si tu veux.
Les deux enfants renouvelèrent leur serment, se condamnant eux-mêmes, en cas de manquement, aux peines les plus sévères.
Sais-tu de quoi on parle dans le village, Huck ?
Moi, je n'entends parler que de ça.
Je te crois. Muff Potter, encore Muff Potter, et toujours Muff Potter.
Ça me donne de telles émotions que j'aimerais mieux être ailleurs.
Moi aussi.
J'ai peur que ça aille mal pour lui. Il me fait de la peine, ce pauvre type.
Pas toi ?
Si. Ce n'est pas un personnage, c'est entendu. Mais il n'a fait de mal à personne. Il va quelquefois à la pêche. Juste assez pour gagner de quoi se prendre une cuite. Le reste du temps, il ne se foule pas. Il y a bien des gens qui n'en font pas plus que lui, à commencer par ceux qui y trouvent à redire. Mais dans le fond, c'est un brave type. Un jour, alors qu'il n'en avait pas assez pour 2, il m'a donné la moitié d'un poisson. Et bien des fois, quand j'étais dans la mouise, il m'a aidé à en sortir. Moi, il m'a souvent réparé mon cerf-volant. Il a souvent rattaché la meçon de ma ligne. Je voudrais bien que nous puissions le tirer de là.
Comment veux-tu faire, Tom ? Et à quoi cela servirait-il ?
On le repoisserait.
Évidemment. Mais ça me dégoûte d'entendre les gens lui tomber dessus comme ça, quand il n'y est pour rien.
Moi aussi. Les gens ne se gênent pas pour dire qu'il n'y a pas plus sombre brute que lui dans tout le pays et s'étonnent qu'il n'ait pas encore été pendu.
C'est ça.
Il y en a même qui ont dit que si on le libérait, il le lyncherait. Et ils sont capables de le faire. La conversation dura encore longtemps sans qu'une conclusion intervînt. La nuit tombait. Les gamins s'aperçurent tout à coup que leurs pas les avaient conduits près de la prison, peut-être dans le vague espoir de voir arriver quelque chose qui, par miracle, arrangerait tout. Mais il n'arriva rien. Ni les anges, ni les fées ne s'intéressaient à l'infortuné prisonnier. Comme il l'avait déjà fait bien souvent, les enfants allèrent à la fenêtre grillagée et donnèrent à Potter du tabac et des allumettes. On sait que la cellule était au rez-de-chaussée et qu'il n'y avait pas de gardien. La reconnaissance avec laquelle leur don était accueilli leur avait toujours causé des remords, et cette fois plus que jamais. Ils se rendirent compte de la lâcheté, de la veulerie de leur attitude en entendant Potter leur dire. Vous avez été très bon pour moi, mes enfants. Vous avez été plus chic que n'importe qui ici en ville. Et ça, je ne l'oublie pas. Souvent, je me dis, j'ai raccommodé bien des cerfs-volants et d'autres jouets pour les enfants de ce village. Je leur ai bien des fois indiqué les bons coins pour pêcher. Et aujourd'hui, que je suis dans le bain, ils me laissent tomber. Mais Tom et Huck, eux, ne m'ont pas oublié. Et je ne les oublierai pas non plus. Mes enfants, j'ai fait quelque chose d'épouvantable. Il a fallu que je sois saoule et fou allié en même temps. Autrement, je ne comprends pas. Maintenant, je paie. Tant pis pour moi. C'est juste. Et c'est comme ça que ça doit être. Je l'espère du moins. Enfin, n'en parlons plus. Je ne veux pas vous donner des idées noires. Vous avez été très gentil pour moi. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous ne voulez pas aller en prison, il ne faut pas boire. Approchez-vous un peu, que je vous vois. Ça fait du bien de voir des visages amis quand on est dans le pétrin comme je le suis. Et il n'en passe pas d'autres que les vôtres. Vous avez de bonnes figures. Faites-vous la courte échelle, chacun votre tour, que je puisse vous toucher. Là, c'est bien, donnez-moi la main. La vôtre peut passer à travers les barreaux, la mienne est trop grosse. Bonne petite main qui ont aidé Meuf Potter et qui l'aideraient bien plus encore si elle le pouvait. Tom rentra à la maison très abattu. Cette nuit-là, son sommeil fut peuplé de cauchemars. Le lendemain et le jour suivant, il rôda autour du tribunal, attiré malgré lui comme par une force irrésistible. Il lui fallut un effort de volonté pour rester dehors. C'était également le cas de Huck. Tom et lui évitaient soigneusement de se rencontrer. De temps en temps, l'un et l'autre erraient à l'aventure, mais le même attrait morbide les attirait régulièrement au même endroit. Quand le public sortait de la salle d'audience, Tom écoutait de toutes ses oreilles, chaque fois pour entendre de mauvaises nouvelles. L'étau se resserrait de plus en plus autour du pauvre Potter. À la fin du second jour, on disait ouvertement que la déposition de Joe l'Indien se trouvait entièrement confirmée et que le verdict du jury ne faisait de doute pour personne. Le dernier soir, avant le jugement, Tom rentra tard et dut passer par la fenêtre. Il était dans un état d'énervement terrible et il lui fallut des heures pour s'endormir. Le lendemain matin, tout le village se rendit au tribunal. C'était le grand jour. L'audience comprenait un nombre à peu près égal de représentants des deux sexes. Après une longue attente, on vit les jurés entrer un à un et gagner leur place. Peu après, Potter, blême, les yeux hagards, tremblant de crainte, désespéré, fut introduit les menottes aux mains. À la place où il était assis, tous les curieux pouvaient le voir. Joe l'Indien, flegmatique comme toujours, attirait également les regards. Il y eut une seconde pause. Enfin, le juge arriva et le shérif annonça l'ouverture de l'audience. Suivirent les chuchotements habituels entre hommes de loi, ainsi qu'un bruit de froissement de papier. Ces détails et les regards qu'ils entraînaient créèrent une atmosphère de préparation aussi solennelle qu'impressionnante. On appela un témoin qui déclara avoir vu Potter se laver dans un ruisseau de très bonne heure le matin où le crime fut découvert. L'inculpé s'était enfui aussitôt. Après quelques autres questions, le ministère public fit entrer le témoin suivant. Le prisonnier leva les yeux, puis les baissa quand son avocat déclara « Nous n'avons pas de questions à poser. » Et le procureur dit au témoin « Vous pouvez vous retirer. » Le deuxième témoin raconta comment il avait trouvé le couteau près du cadavre. Quand l'avocat de Potter eut dit « Nous n'avons pas de questions à poser », le procureur pria à nouveau le témoin de se retirer. Le troisième témoin déclara qu'il avait souvent vu ce couteau entre les mains de Potter. L'avocat du prévenu, ayant à nouveau déclaré qu'il n'avait pas de questions à poser, le public commença à protester. Cet avocat faisait-il si bon marché de la vie de son client qu'il ne veuille rien tenter pour le sauver ? D'autres témoins vinrent déposer à tour de rôle et dire que l'attitude qu'avait eue Potter lorsqu'on le conduisait sur la scène du crime permettait de conclure à sa culpabilité. Chacun put se retirer sans qu'aucune question lui eût été posée. Tous les détails des circonstances aggravantes survenues au cimetière au cours de cette matinée, dont tous avaient gardé un souvenir très précis, furent évoqués par des témoins dignes de foi, sans que l'avocat de Potter jugeât nécessaire d'en interroger aucun. L'auditoire manifesta alors son mécontentement et sa déception. Le président rappela le public à l'ordre. Le procureur se leva. « Messieurs les jurés, les témoignages de citoyens dont la parole ne saurait être mise en doute nous ont apporté la confirmation que ce crime est, sans discussion possible, l'œuvre du malheureux prévenu ici présent. Nous n'avons rien à ajouter. Que justice soit faite. » Le pauvre Potter laissa échapper un gémissement. Il se cacha le visage dans les mains. Son corps était agité par un tremblement, tandis qu'un silence pénible régnait dans la salle. Des hommes manifestaient leur émotion. Des femmes pleuraient. L'avocat de Potter se leva et dit « Monsieur le Président, les observations que nous avons formulées au début de cette affaire ont pu faire supposer que notre intention était de prouver que notre client avait agi sous l'empire d'une ivresse qui lui avait fait perdre la notion des choses et le sens de ses responsabilités. Nous avons changé d'avis, et ce n'est pas ainsi que nous plaiderons. » Se tournant vers le greffier, il demanda « Que l'on fasse comparaître Thomas Sawyer. » Une surprise intriguée se lut sur tous les visages, sans excepter celui de Potter. Tous les regards se dirigèrent avec curiosité vers Tom Sawyer qui venait de se lever et gagnait la barre. L'enfant ne paraissait pas à son aise. En réalité, il était effaré. Après qu'il eut prêté serment, le juge lui demanda « Thomas Sawyer, où étiez-vous le 17 juin vers minuit ?» Tom jeta un regard sur le visage impassible de Joe l'Indien et la parole lui manqua. L'assistance écoutait fiévreusement, mais les mots ne venaient pas. Quelques instants après, cependant, l'enfant se ressaisit et réussit à parler à voix assez haute pour qu'une partie de l'audience l'entendît. Dans le cimetière. « Un peu plus fort, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Où étiez-vous ?»« Dans le cimetière, monsieur le président. » Un sourire de mépris passa sur les lèvres de Joe l'Indien. « Étiez-vous près de la tombe de Horace Williams ?»«
Oui, monsieur le président. » »«
Parlez un peu plus fort. À quelle distance étiez-vous ?»«
À peu près à la même distance que celle qui me sépare de vous. » »«
Étiez-vous caché ?»«
J'étais caché, monsieur le président. » »«
Où cela ?»«
Derrière les ormes qui se trouvent à côté de la tombe. »
Joe l'Indien eut un tressaillement presque imperceptible.
Y avait-il quelqu'un avec vous ?
Oui, monsieur le président.
J'étais avec...
Attendez ! Ne dites pas le nom de votre compagnon. Nous le convoquerons en temps utile.
Portiez-vous quelque chose avec vous ?
Tom hésita.
Parlez, petit, n'ayez pas peur. Il faut avoir le respect de la vérité. Que portiez-vous avec vous ?
C'était un chat mort. Il y eut dans la salle une manifestation d'hilarité à laquelle le président mit fin. « Nous montrerons le squelette de ce chat. Maintenant, mon petit, racontez ce qui s'est passé. Racontez-le à votre manière, sans rien omettre, et n'ayez pas peur. » Tom commença, en bredouillant d'abord un peu. Au fur et à mesure qu'il s'échauffait, les mots lui vinrent de plus en plus facilement. Au bout d'un instant, on n'entendait plus dans la salle que le son de sa voix. Tous les regards étaient fixés sur lui. Chacun retenait son haleine et, sans tenir compte de l'heure, écoutait, bouche bée, la sinistre et passionnante histoire. L'émotion fut à son comble lorsque Tom déclara. Et quand, d'un coup de la pièce de bois, le docteur a renversé Potter, Joe l'Indien a bondi, le couteau en main et coup de théâtre. Rapide comme l'éclair, le métis, bousculant tous ceux qui se trouvaient sur son passage, venait de sauter par la fenêtre et avait disparu.